L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Marseille, en France, le professeur Yahya Zoubir, chercheur senior non-résident au Middle East Council of International Affairs à Doha. Avec lui, nous allons analyser l'échec de la stratégie américaine dans sa guerre contre le terrorisme au Moyen-Orient et en Asie centrale, mais aussi en Afrique, où la disgrâce est plus grande, bien que moins citée par les médias. Lors de la pause, à la fin de la première partie de notre émission, nous recevrons deux experts burkinabés, le professeur Amidou Sawadougou, macroéconomiste, et Lianoué Emotep Bayala, analyste politique. Et s'exprimant sur l'idée de création d'une union économique et monétaire entre le Mali, Niger et le Burkina Faso, ainsi que sur le succès de ces trois pays du Sahel dans la lutte antiterroriste. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. La guerre globale menée par les États-Unis contre le terrorisme a connu son lot d'impasses, de catastrophes et de défaites pures et simples. En plus de 20 ans d'intervention militaire, l'armée américaine a vu ses efforts échouer de façon spectaculaire de l'Irak en 2014 à l'Afghanistan en 2021. Cependant, le plus grand échec de ces guerres éternelles ne s'est peut-être pas produit au Moyen-Orient, mais en Afrique. Dans un discours au peuple américain immédiatement après les attentats du 11 septembre, le président George Walker Bush a déclaré
Our war on terror begins with Al-Qaïda.
Notre guerre contre le terrorisme commence avec Al-Qaïda, mais elle ne s'arrêtera pas là. Elle ne prendra fin qu'une fois que tous les groupes terroristes de portée mondiale auront été trouvés, arrêtés et vaincus.
Il a noté en particulier que les djihadistes avaient de vastes projets dans toutes les régions du monde, y compris en Afrique. Pour renforcer ce front, les États-Unis ont entrepris un effort pluriannuel pour fournir une assistance sécuritaire significative, former des milliers d'officiers militaires africains, établir des dizaines d'avant-postes, envoyer leurs propres commandos dans toutes sortes de missions, créer des forces par procuration, mener des frappes de drones et même participer directement à des opérations terrestres de lutte contre les mouvements djihadistes en Afrique. La plupart des Américains, y compris les membres du Congrès, ignorent l'ampleur de ces opérations. En conséquence, peu de gens réalisent à quel point la guerre fantôme américaine a échoué dans ce continent. Les chiffres approximatifs témoignent à eux seuls de l'ampleur du désastre. Lorsque les États-Unis ont commencé leur guerre perpétuelle en 2002 et 2003, le département d'État n'avait dénombré au total que 9 attentats terroristes en Afrique. Or, en 2023, soit 20 ans après, les groupes terroristes et djihadistes ont mené 6756 attaques en Afrique, selon le Pentagone. En d'autres termes, depuis que les États-Unis ont intensifié leurs opérations antiterroristes en Afrique, le terrorisme a augmenté de 75 000%. Qu'est-ce qui explique alors cet échec à l'échelle mondiale? Dans le contexte de la situation en Ukraine et au Proche-Orient, quelle serait la suite de la stratégie US de lutte antiterroriste? Pour discuter de ces questions fondamentales, j'ai le plaisir de recevoir depuis Marseille le professeur Yahya Zoubir, chercheur senior non résident au Middle East Council of International Affairs à Doha. Professeur Yahya Zoubir, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Tout le plaisir est pour nous. Alors, la première question, professeur Zoubir, les guerres américaines en Afghanistan et en Irak, pour ne citer que celles-ci, les plus marquantes, ont conduit à des succès militaires en 2001 et 2003 qui ont rapidement dégénéré en une occupation aveugle. tout le monde voit qu'en Afghanistan, par exemple, une guerre de deux décennies s'est terminée en 2021 avec la défaite des forces construites, financées et entraînées par les États-Unis, alors que les talibans reprenaient donc le pays. En Irak aussi, c'est la même chose depuis 2014. Et puis, les Américains ne contrôlent strictement rien du tout. Et c'est le Hejd Chabi qui prend le contrôle du pays. Bien. Alors, comment expliquez-vous ce qui s'est passé dans ces deux pays, malgré les gros moyens engagés par l'armée américaine?
Bon, les deux cas sont assez différents, mais on peut y trouver certaines similitudes. Dans le premier cas, comme vous avez dit, il y avait en Afghanistan, il y avait une justification que les événements du 11 septembre ont été planifiés, même les membres ont été entraînés en Afghanistan. Donc il y avait une certaine, je dis bien une certaine légitimité à combattre les responsables de ce qui s'était passé. Mais par la suite, la vision était, enfin les perceptions des populations locales étaient différentes, c'est-à-dire que cette armée qui était venue pour punir les responsables du 11 septembre s'est transformée en une force d'occupation. Et c'est ça, c'est ainsi qu'il faut le voir, et une force d'occupation qui ne comprend pas la réalité sociologique de ce pays. Donc, les talibans avaient un certain rôle, la preuve, par la suite, ils sont revenus. Oui. Les talibans n'ont jamais disparu, donc ils font partie, de, qu'on le veuille ou non, qu'on accepte ou pas, mais qui font partie du tissu social. Ils sont présents et les États-Unis ont tenté de former une, un tant soit peu, une certaine armée et pratiquement en faire une armée laïque, si vous voulez, qui ne correspond pas du tout...
Républicaine, comme ils disent, républicaine.
Voilà, comme on dit, républicaine. Mais ça ne correspond, ceci ne correspond pas à la réalité sociale et sociologique de ce pays. Même chose pour l'Irak. L'Irak, n'oublions pas, et c'est là un point très très important, l'Irak a été envahi de manière illégale, illégitime. Il y a eu une destruction massive, on n'a jamais retrouvé les armes de destruction massive, les ADM, il n'y en avait pas, et tout le monde sait qu'il n'y en avait pas, qu'on a créé une justification injustifiable pour envahir le pays et le détruire. Et la destruction, elle, jusqu'à présent, elle est visible. Et on n'a pas tenu compte, c'est-à-dire qu'on a mis un individu à l'époque, Imbrenner, etc., pour essayer de créer une armée, encore une fois, sur des gens républicains et autres. Mais on a monté chiite contre sunni, on n'a pas tenu compte de cette de l'équilibre qui existait, puis la question turque. Donc il y a eu non seulement cette division de sectarienne, si l'on veut, sectaire plutôt. Vous avez les chiites d'un côté, les sunnis d'un autre, mais vous avez des groupes ethniques différents, des Kurdes et les Kurdes entre eux qui sont seuls. Donc on a joué sur la carte plus sécuritaire sans en comprendre les tenants et aboutissants, et on a continué. Et bien sûr, on a vu que après la chute de Saddam Hussein, ce qui s'est passé très 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 clairement, c'est que les forces qui étaient opposées à Saddam Hussein éventuellement se sont soulevées contre les États-Unis, surtout l'armée. On parlait d'une
cette destruction sans vision de reconstruction, et c'est ça justement qui a généré tout le terrorisme après dans toute la région du Moyen-Orient. En Afghanistan aussi, c'est la même chose. Les États-Unis ont quand même dépensé 4 à 24 milliards de dollars sur les 20 années où ils sont restés en Afghanistan.
Des études ont été faites pour montrer que les États-Unis n'ont pas gagné de guerre. On a vu la même chose au Vietnam ou autre. Et maintenant, vous avez parlé de l'Afghanistan et de l'Irak. Regardez l'état dans lequel se trouve la Libye. La Libye, c'est la même chose. Il y a eu une destruction, il y a eu une chute, un régime change, comme on dit. On a fait chuter Kadhafi.
Professeur Zoubir, en Afrique, les États-Unis ont lancé une campagne parallèle au début des années 2000, soutenant et entraînant les troupes africaines depuis le Mali à l'ouest jusqu'en Somalie à l'est, et créant des forces par procuration qui combattaient aux côtés des commandos américains. Et pour mener à bien ces missions, l'armée américaine a établi un réseau d'avant-postes à travers la partie nord du continent, y compris d'importantes bases de drones, depuis le camp Le Monnier et son avant-poste à Djibouti jusqu'à la base de drones aériennes à Agadez au Niger. Et de minuscules installations avec de petits contingents de forces spéciales américaines dans des pays allant de la Libye et du Niger à la République centrafricaine et au Soudan du Sud. Et pendant près d'une décennie, la guerre menée par Washington en Afrique est restée largement secrète. Et ensuite, sa décision d'attaquer la Libye, justement, que vous évoquiez tout à l'heure, d'attaquer la Libye, la région du Sahel, dans une situation... Sa décision a fait sombrer la région du Sahel dans une situation désespérée dont les pays n'arrivent pas encore à s'en sortir. En Afrique, plusieurs coups d'État ont eu lieu dans les pays ouest africains, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Guinée-Conakry, pour ne citer que cela. Alors, toutes les nouvelles autorités civiles et militaires de ces pays ont évoqué comme cause principale du changement qu'ils ont opéré, la dégradation de la situation sécuritaire et l'incapacité des pouvoirs en place d'y faire face. Et tous ces pays se sont tournés vers la Russie et la Chine en vue d'avoir plus de moyens militaires et une meilleure coopération antiterroriste. Alors, à votre avis, ces changements ne sont-ils pas la preuve, justement, de l'échec total aussi bien des États-Unis que de la France dans cette entreprise antiterroriste ?
Tout à fait. La lutte antiterroriste dans la région n'a rien ramené, puisque on a vu même avec l'opération Barkhane et Serval par la suite. Au début, peut-être, on a voulu combattre le mouvement de Iyad Ali et autres, les mouvements Qaïda au Maghreb islamique et les autres mouvements, qui, le Mujahid, qui sont sortis. Mais après 10 ans ou plus, on n'a pas vu de résultats concrets. La perception était encore une fois que ces pays n'ont pas réussi, enfin la France notamment, même avec l'Union européenne, puisqu'il y avait des Allemands présents, des Danois, un peu de partout, des troupes qui sont venues s'installer en Mali et au Niger et dans le Sahel en général, et que ça n'a rien donné. La population qui était la première victime justement de ces troupes, de ces groupes terroristes, ce qu'on peut les appeler, mais qu'on disait, que fait la France ici? Donc la France est un pays colonial, c'est-à-dire que les interventions étrangères sont faites pour les intérêts justement économiques de ces pays-là, mais aussi pour déstabiliser dans un sens, puisque ces groupes font peur à la population, les armées, enfin, ou les dirigeants africains qui étaient censés défendre les intérêts de leur pays ne le faisaient pas, puisque il y avait une sorte de collusion avec les armées néocoloniales, si vous voulez, enfin, dans la perception de la population. Et on a pour des raisons, est-ce qu'elles sont vraiment légitimes, est-ce qu'elles ne le sont pas, mais ces coups d'État étaient vraiment, si vous voyez, si on analyse bien les déclarations de ceux qui ont commis les coups d'État, d'abord, ils sont jeunes, ce sont de jeunes militaires, et parfois même formés par les États-Unis ou autres, mais qui disent non seulement que les autorités au pouvoir ont failli à leur mission d'en finir avec le terrorisme, mais aussi ils ont mis en avant la question du développement. Vous voyez, par exemple, allez, prenons, que ce soit on prend le Niger en tant qu'exemple, le Niger qui a une richesse extraordinaire, mais qui vit au seuil de la pauvreté à $2 par jour pour la population qui vraiment est dans un état terrible. Ce n'est pas unique au Niger. Moi, j'ai travaillé sur le Sahel. Si vous voyez le Sahel, les pays du Sahel sont parmi les pays les plus pauvres dans le monde. Ils sont classés par les Nations Unies, par le...
L'indice de développement humain.
L'indice de développement humain est le plus faible dans le monde. Bon, on se pose la question, comment se fait-il que des pays qui ont de telles ressources, des richesses extraordinaires, qu'on parle de fer, on parle d'or, on parle de minerai de fer, on parle d'uranium, il y a de tout. Il y a de tout dans ces pays-là. Et on ne voit pas de développement.
Les militaires formés par les Américains dans cette région, donc en Afrique, n'ont obtenu qu'un seul succès, comme on peut le constater, c'est renverser les gouvernements pour lesquels les États-Unis les avaient entraînés à défendre. Et on peut citer au moins 15 officiers ayant reçu une formation au sein de l'armée américaine qui ont été impliqués dans 12 coups d'État en Afrique de l'Ouest et dans le Grand Sahel pendant la guerre contre le terrorisme. Alors, c'est un peu, comment dirais-je, la sorcellerie qui se retourne contre le sorcier. Et comme vous veniez juste justement de l'expliquer, ce que les gens ont fait, même s'ils ont été formés par les Américains, ils n'ont pas accepté, enfin en tout cas, au moins dans ceux qui mènent actuellement une politique de développement à marche forcée, en coopération avec la Chine et la Russie, et c'est quand même, on peut dire que la politique américaine dans la région, c'était un échec sur tous les tableaux.
Vous savez, quand on parle de justement la formation de ces militaires, il y a un changement extraordinaire. Dans le temps, si on parle des années 60, 70, tous les militaires qui étaient formés par les États-Unis en Amérique latine, ils ont fait des coups d'État, mais des coups d'État qui sont restés pro-américains.
Comme en Chili, par exemple.
Le plus important, voilà, le Chili était le plus flagrant, etc. Là, nous avons des gens qui ont, qui ont certes eu une formation militaire aux États-Unis, etc., mais on ne sent pas qu'ils ont mis, justement, que ces coups d'État ont été faits pour les intérêts, même si ils se sont abstenus, par exemple au Niger, de s'attaquer. Ils ont demandé à ce que l'ambassadeur de France quitte le pays, à ce que les Français quittent le pays, mais ils n'ont pas parlé des deux bases américaines au Niger, par exemple. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que ces militaires ont fait des coups d'État au bénéfice, au profit des États-Unis.
Non, ce n'est pas ça. C'est que justement, par rapport à ce qu'ils ont eu comme politique en Amérique latine, justement, c'est pour ça que je vous ai dit que la sorcellerie qui se retourne contre le sorcier.
Justement, c'est ça qui me rend un peu perplexe, c'est qu'ils sont... Ces militaires ont été formés par les États-Unis, etc., mais qui n'ont pas pris une position favorable, nécessairement favorable aux États-Unis. Voilà, ça c'est un point. Mais il faut mettre tout ça, ces coups d'État, ils sont prévisibles, ils étaient prévisibles. Maintenant, même certains d'entre nous qui sommes contre les coups d'État ou ce qu'on appelle les changements de gouvernement anticonstitutionnels. Mais on est obligé de quand même d'accepter le fait que les régimes en place ne servaient pas les intérêts des populations. Parce que qu'est-ce qu'on voit depuis au Sahel? Le problème du Sahel ne date pas d'aujourd'hui, il date depuis très longtemps. On a dit, par exemple, que le Mali est un modèle de démocratie, etc. Mais qu'est-ce que c'est que la démocratie quand on crève de faim? Et puis, la nature a été aussi contre ces pauvres populations, le changement climatique, les questions ethniques sur lesquelles les puissances étrangères ont joué. Hein, c'est des divide and rule, hein, c'est divisé pour régner. Donc, il y a une situation qui était devenue intenable.
Et justement, est-ce qu'on, par exemple, vous avez cité le cas du Mali, on peut aussi citer le cas de Burkina Faso. Le Mali vient justement de signer un contrat avec la Russie pour la construction d'une centrale solaire de 300 oui. mégawatts, chose que la France, par exemple, aurait pu aider le Mali à faire. Les deux pays viennent de signer aussi de reprendre le contrôle de leur gisement d'or et de lancer des sociétés nationales visiblement avec la Russie pour le raffinement de l'or et sa transformation locale. Il y a des projets de centrales nucléaires, c'est des choses. Et même la coopération spatiale, il y a un très grand accord entre la Russie et le Mali pour le lancement de satellites de communication et d'Internet. Donc, voilà. Donc, comment dirais-je, bien que le changement par la force n'est pas toujours souhaité, mais on ne peut pas nier qu'il apporte des changements positifs dans le bon sens.
Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, sur le plan de déclaration, on ne peut qu'être d'accord, sans pour autant soutenir des coups d'État, mais de dire, écoutez, là, ça ne pouvait pas durer. Donc, si ces militaires ont des ambitions vraiment qui tendent à faire progresser la société, la population, ça reste à voir. Maintenant, j'ai vu qu'il y a deux ou trois jours, les trois pays ont fait une association, le Niger et le Mali, pour aussi, vous avez parlé du solaire, etc., qui parle ces pays, enfin qui parle de coopération, etc., et qui se dégage un petit peu de l'ECOWAS, enfin de la CDAO, pardon. Donc il y a cette volonté. Je pense que il y a une prise de conscience que le développement de ces pays est devenu primordial.
D'accord.
Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie du professeur Yahya Zoubir pour la seconde partie de notre émission dans quelques minutes. Lors de la pause, nous allons approfondir le sujet de l'alliance entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger abordé par mon invité. Avec le professeur Amidou Sawadogo, macroéconomiste burkinabé et Lionwe Emotep Bayala, analyste politique burkinabé, nous discuterons des perspectives d'une union économique et monétaire des trois pays, ainsi que de leur lutte contre le terrorisme. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Ouadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Le 16 décembre dernier, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont institué l'Alliance des États du Sahel. Elle a tenu son tout premier sommet ministériel samedi le 25 novembre à Bamako. Cet événement, qui a réuni les ministres chargés de l'économie et des finances de ces trois pays, a porté sur le développement économique dans l'espace du Liptako Gourma. Pour discuter des recommandations présentées à l'issue des travaux et surtout de l'initiative de créer une union économique et monétaire en vue de s'épanouir du Front CFA, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Hamidou Sawadogo, macroéconomiste burkinabé, enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo. Professeur Sawadogo, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. S'il vous plaît, pouvez-vous dresser le contexte dans lequel est née cette initiative et pourquoi maintenant?
Vous voyez que à travers les régimes de transition qui se sont installés dans les trois États, il y a eu plein de sanctions qui ont été adressées à ces trois gouvernements de ces trois pays-là et par conséquent à l'ensemble des populations de ces trois pays. Et souvent les sanctions même viennent des organisations sous-régionales. Et donc du coup, je pense que le fait de subir ces sanctions dû donner des enseignements à ces gouvernements-là de savoir qu'on doit pouvoir s'autosuffire et pouvoir avancer. Parce que quand on compte toujours sur la communauté internationale, quand on compte toujours sur les institutions sous-régionales, alors que nous n'avons pas les mêmes visions, alors le problème peut se poser. Et c'est pour cela que tous ceux qui ont la même vision doivent pouvoir se mettre ensemble et aller dans la même direction. Les trois États ont compris que l'Union doit faire la force et qu'il faut se mettre en rang pour pouvoir avancer. Personnellement, j'apprécierais qu'il s'associe encore à un autre pays, au moins à un pays côtier, pour pouvoir avoir accès à la mer, pour pouvoir faire transiter essentiellement leurs marchandises aussi auprès du reste du monde. Et je pense que ça, c'est quelque chose de bénéfique et vivement que ça arrive.
Ma question suivante porte sur la mesure de l'union de ces trois pays. Tous les trois pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Alors, est-ce que cette union représente-t-elle une menace réelle pour le franc CFA?
Je ne peux prévoir l'avenir par rapport à la destinée du franc CFA, mais je pense que vous le savez déjà, il y a nombre d'économistes africains comme européens ou du reste du monde qui élèvent essentiellement des voix, des politiciens, des activistes qui s'élèvent des voix contre déjà le franc CFA. Et je pense que si les trois États se mettent déjà ensemble pour créer une monnaie, je ne suis pas dans le secret des États, mais je pense que cette monnaie ne s'appellerait plus franc CFA, et cette monnaie ne serait pas ni adossée, cela ne serait jamais la volonté de ces trois États-là par l'euro. Et donc, par conséquent, ça serait une monnaie qui serait totalement indépendante de la Banque de France et de la Banque Centrale Européenne. Et donc, moi, je pense que ça serait une monnaie créée par les trois États, gérée par les trois États, au profit des trois États, même si d'aucuns pensent qu'il peut y avoir des contraintes, mais on ne peut pas essentiellement avancer sans faire face à des contraintes. Le plus important, c'est que les bénéfices dépassent essentiellement les contraintes. Et par conséquent, je pense que si le comité qui serait mis en place là aboutit à des conclusions où c'est plus bénéfique de créer notre propre monnaie, alors nous créons notre propre monnaie dans cet espace et cette monnaie s'appellerait tout sauf franc CFA.
Les pays en question coopèrent activement avec la Russie dans divers domaines, notamment économiques et militaires, à l'instar du Mali ou du Burkina Faso. Alors, professeur Sawadogo, selon vous, les entreprises russes pourraient-elles contribuer à la mise en œuvre, par exemple, de grands projets d'infrastructure nécessaire à une intégration véritable?
Je pense aussi que la Russie et les trois pays, là, l'Alliance des États du Sahel, là, collaborent déjà assez bien, notamment dans le domaine sécuritaire, mais aussi sur certains projets économiques. Hein. Et donc, par conséquent, l'apport des entreprises russes pourrait aussi aider à la reconstruction de l'après-guerre des États de l'Afrique de façon générale, mais surtout de l'Alliance des États du Sahel, notamment les trois pays, à savoir le Burkina, le Niger et le Mali. La coopération peut aller de l'industrialisation des économies de ces pays en allant par l'apport technologique, par la formation, mais aussi ça ouvre un marché pour la Russie, qui pourrait essentiellement vendre aussi des produits parce que le marché africain est fertile, mais aussi acheter des intrants, acheter des produits. Et cela aussi pourrait être aussi bénéfique pour l'Afrique de pouvoir booster ses exportations, pouvoir vendre des produits finis, hein, hors de l'Afrique, en passant par la Russie, mais en bénéficiant aussi du niveau technologique de la Russie et en bénéficiant de son expertise en matière de formation à travers les innovations dans beaucoup de domaines, comme même dans le domaine de l'agriculture, mais dans le domaine aussi de l'élevage pour pouvoir booster son économie. Et je pense que une bonne collaboration entre essentiellement la Russie et les États, l'alliance des États du Sahel là, pourrait être bénéfique pour les partenaires, pour l'ensemble des deux parties, et la Russie d'une part et d'autre part l'alliance des États du Sahel.
La rencontre des ministres du Mali, du Burkina Faso et du Niger a eu lieu peu après la libération de Kidal par les forces armées maliennes. Alors, professeur Sawadogo, dans quelle mesure la victoire de l'armée malienne peut-elle donner un coup d'accélérateur au développement économique de toute la région?
Je pense que la libération de Kidal est un plus, hein, un plus non seulement moralement, mais un plus économiquement et même un plus financièrement pour les trois États. Hein. Ce n'est pas seulement pour le Mali, parce que dès lors qu'on libère une région, moralement, les autres équipes des autres régions, des autres contrées, ils savent que c'est possible désormais. Et vous avez dû suivre, après la libération de Kidal, il y a tout un groupe qui s'est dirigé vers le Burkina, mais je pense qu'ils ont payé le prix. Et par conséquent, actuellement, la question du terrorisme est en train de reculer dans les trois États. Et ça, c'est quand même quelque chose d'indéniable. Et ce qui est fondamental est de pouvoir mener des actions économiques, de poser des actions qui vont dans le sens de la libération morale et financière des populations pour que ces populations-là puissent prendre en main leur propre destin en créant le développement endogène. Et je pense que c'est pour ça que les trois États ont réfléchi essentiellement vers une union économique et monétaire. Mais c'est un comité qui serait mis en place, qui va réfléchir et qui va pouvoir donner des conclusions. Et si les conclusions disent de créer une union économique et monétaire pour les trois pays, alors les chefs d'État ne vont pas hésiter à y aller, en vue essentiellement le contexte et vu les opportunités qu'une union économique et monétaire véritable pourrait créer dans les trois États, bien sûr aussi avec ses contraintes.
Professeur Amidou Sawadogo, je vous remercie pour toutes ces informations et à bientôt. C'était le professeur Amidou Sawadogo, macroéconomiste burkinabé, enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo. Comme le professeur vient de le souligner, les FAMA ne sont pas les seuls dans la région à combattre avec succès le terrorisme. Au moins 400 terroristes ont été neutralisés récemment lors d'une contre-offensive des forces armées burkinabées. À présent, je donne la parole à Liongwe Emotep Bayala, acteur de la société civile burkinabé et analyste politique qui nous rejoint pour parler des origines et de la signification de cette victoire. Liongwe Emotep Bayala, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qui a rendu cette victoire à Kidal possible? Et qu'est-ce que cela signifie pour la sécurité du Mali?
Ce qui a rendu cette victoire possible face à l'une des plus grandes attaques, les plus planifiées de l'histoire du terrorisme dans le Sahel, avec plus de 3000 combattants, cette victoire des forces armées burkinabées réside en quelques éléments. Le premier élément, c'est le leadership politique qui inspire les forces combattantes sur le terrain, qui est exemplaire et auquel les forces combattantes sur le terrain se reconnaissent et sont donc désormais prêts au sacrifice ultime pour défendre le drapeau et défendre l'intégrité du territoire. Avant, on n'avait pas un leadership politique qui inspirait confiance et qui inspirait la volonté de se battre. Désormais, c'est chose réglée à travers le profil de l'officier militaire qu'est le capitaine Ibrahim Traoré. Alors, ce leadership suffisamment à la hauteur du défi a pu comprendre la nécessité de s'allier de nouveaux partenaires, accélérer l'acquisition de matériel de guerre, de matériel logistique, toute nature dictature. Et donc, ce qui veut dire que les partenariats militaires vers lesquels le Burkina allait, les partenariats stratégiques, ont permis d'avoir en face des partenaires sincères comme la Russie qui a su s'ouvrir à cette coopération de défense et qui a contribué à faciliter l'acquisition d'armes sur le marché international. C'est un élément indispensable parce que avant, nos soldats périssaient par manque de munitions ou par manque d'armes adaptées. Désormais, ce n'est plus des problèmes de cette logistique qui se pose. C'est désormais un problème totalement réglé. C'est qui permet à nos hommes de pouvoir adresser victorieusement les menaces les plus redoutables que les terroristes nous infligeaient jusque-là. Je pense que ce sont ces éléments-là qui peuvent expliquer la victoire héroïque de nos forces combattantes sur les terroristes. Alors, cela signifie que le pays est en train de recouvrer progressivement sa bonne santé sécuritaire. Ça signifie que le Burkina Faso, comme on peut le constater sur le terrain, devient un pays fréquentable qui organise des grands rendez-vous sportifs et culturels sans aucun incident sécuritaire. C'est tout récemment le Tour du Faso qui a connu la participation de plusieurs régions qui étaient hier infréquentables, aujourd'hui qui sont devenues fréquentables. Cela démontre que la menace terroriste est en train d'être réduite à sa simple expression et que ces financiers du bloc occidental devraient commencer à comprendre cela et à laisser les populations sahéliennes en paix.
Les forces armées maliennes ont récemment libérer la ville de Kidal. C'est un fait. Force est de constater que depuis le retrait des troupes occidentales de la région, ces victoires sont de plus en plus nombreuses. Peut-on y voir une simple coïncidence?
Non, je pense que le retrait de la coalition internationale et la montée en puissance de l'armée malienne qui prend en moins de 2 semaines la ville de Kidal, qui était jusque-là imprenable depuis 10 ans, ce n'est pas juste un fait de coïncidence banale. Je pense que le fait que c'est maintenant qu'on réalise avec une performance de guerre de moins d'un contact de feu de moins de 2 semaines et que la ville est prise, cela montre que le complotisme international qui hébergeait et protégeait, assurait gîte et couvert aux terroristes à Kidal sous le prétexte fallacieux que c'était des terroristes démocrates, c'était des terroristes respectueux des droits humains selon le bloc occidental et selon ses collaborations incestueuses avec ces terroristes-là. Je crois que ce n'est pas le fruit du hasard. Vous avez dû remarquer, et aujourd'hui on le constate, l'armée malienne a pu acquérir une importante flotte militaire aérienne qui est opérationnel, a davantage blindé son parc de guerre avec l'achat d'armes stratégiques, le recrutement massif de soldats et la diversification de partenariats en mettant en avance un acteur stratégique sur le plan mondial dont la réputation militaire ne se discute plus, qu'est la Russie. Et je pense que ce partenaire s'est montré plus fiable et plus sincère dans la coopération là où le bloc occidental, avec ses plus de 35 000 soldats présents aux portes de Kidal, ont échoué en 10 ans à redonner au peuple malien Kidal comme un élément indivisible de son territoire. C'est ce que les nouvelles coopérations que le Mali a su tisser a permis d'obtenir. Donc ce n'est pas un fait de hasard et je crois que on peut tout simplement saluer la vaillance et la bravoure des soldats qui ont bataillé pour réinsérer Kidal dans le Mali actuel. Et aussi saluer le leadership courageux et visionnaire des militaires au pouvoir au Mali qui ont su courageusement se débarrasser d'un partenaire ingrat, incapable de produire des résultats et sous les yeux et sous l'assistance duquel les terroristes ont gagné en puissance de nuisance, en puissance de terreur. Là, ce n'est plus le cas avec les nouvelles alliances que le Mali a tissées.
Lionoué et Moteb Bayala, je vous remercie pour toutes ces informations et au revoir. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. À présent, nous allons retrouver le professeur Yahya Zoubir, chercheur senior non résident au Middle East Council of International Affairs à Doha, pour la seconde partie de notre émission. Professeur Yahya Zoubir, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien.
Merci beaucoup.
Alors, de l'autre côté du continent africain, par le Sahel, en Somalie, stagnation et impasse étaient les mots d'ordre de l'effort de guerre américain. Et depuis que le président Joe Biden a pris ses fonctions en janvier 2021, les États-Unis ont mené 31 frappes aériennes annoncées en Somalie, soit 6 fois plus que pendant le premier mandat d'Obama, bien que loin du record établi par le président Trump, dont l'administration a mené 208 frappes depuis 2017 à 2021. Alors, le chef de l'AFRICOM, le général William Ward, dans une déclaration, il dit « Soutenir le développement d'armées professionnelles et compétentes renforce la sécurité et la stabilité en Afrique. » Donc, qui est je rappelle que le général William Ward est le premier chef ou le premier commandant de l'AFRICOM. Mais ce qui est... Donc, ma question, professeur Zoubir, n'est-ce pas l'inverse qui s'est produit dans cette région du continent, hautement sensible, à cause de sa proximité avec le détroit de Bab el-Mandeb sur le golfe d'Aden, par lequel transitent le pétrole et le commerce mondial pour une bonne partie? Et comment peut-on donner le moindre crédit à ce que fait Biden ou avant lui Obama et tout, alors que ce sont eux qui ont détruit la Libye et qui ont fait en sorte que des tonnes d'armes qui n'étaient pas nécessaires à la guerre pour renverser le guide libyen Mouammar Kadhafi, ces tonnes d'armes ont été après acheminées partout dans le Sahel, jusqu'en Somalie, où on sait qu'il y a un énorme trafic d'armes qui s'est produit après la chute de la Libye.
Vous savez, au risque de me répéter, le problème dans la politique étrangère américaine, c'est qu'elle a été militarisée. La politique américaine, on pense résoudre les problèmes par la force, par les mesures sécuritaires, très sécuritaires. Bon, je ne dis pas que la sécurité n'est pas nécessaire, mais on en fait trop de ce point de vue. On néglige justement, les causes profondes qui génèrent une certaine instabilité dans la région. La région, enfin, la Corne de l'Afrique, l'Afrique de l'Est, est une région stratégique pour toutes les puissances. Dans l'océan Indien, pour le Bab el-Mandeb, le transit, j'ai oublié le pourcentage de transit de pétroliers, etc., qui passe par là. On a dans le temps, hein, même pendant la guerre froide, on a fourni de l'armement à des régimes, souvenez de Siad Barre, etc. On a donné de l'armement, et puis il y avait des changements d'alliance, etc. Mais on faisait fi de tout ce qui était développement économique. Il n'y a pas eu de développement économique, il n'y a pas eu d'infrastructure, etc. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un changement. Par exemple, vous allez en Éthiopie, vous voyez, même malgré ce qui se passe en ce moment, mais on voit une infrastructure qui est en train de se construire, etc., grâce à la Chine, grâce à la nouvelle route de la soie, etc. Bon, ça c'est autre chose. Mais ce qui s'est passé dans cette région aussi, c'est que on a les gros navires, par exemple, de pêche qui venaient au large des côtes somaliennes, etc., ont créé encore plus de sous-développement. Parce que on a tué, par exemple, la pêche de la survie d'une grande population. Et puis, donc, ces populations, ce sont surtout les jeunes, se sont tournées vers la piraterie. Et après, on a commencé à monter des bases et ramener même les Allemands, des bases, des Italiens, etc., qui venaient au large de la Somalie pour soi-disant combattre la piraterie. Mais dans un sens, on a affamé une partie de la Somalie et on combat ceux qui ont trouvé un moyen de survie à travers autre chose. Donc on n'a pas pensé au problème de développement. C'est ce que vous disiez tout à l'heure dans la première partie, c'est que pour le résumer, c'est dire que aujourd'hui, on veut les populations autochtones veulent des alternatives à ce qu'elles ont eu depuis les années 60, depuis les années des indépendances.
Mais il y a aussi, professeur Zoubir, la destruction de la Libye qui a joué un énorme rôle dans justement l'embrasement de toute l'Afrique subsaharienne, enfin d'un point de vue sécuritaire.
Absolument. Voilà. Alors, pour revenir à la Libye, merci de m'avoir amené sur ce terrain-là, parce que la Libye a été vraiment un cas d'échec extraordinaire pour l'Europe et pour les États-Unis. Ce qui s'est passé, la Libye, on a exagéré le soulèvement de 2011. Et en fait, on l'a encouragé, on a payé des groupes, il y avait des présences avant même l'explosion, etc. Et il y a eu deux choses en Libye. Il y avait des troupes que Kadhafi utilisait, de sa garde, qui étaient des Touaregs. Des Touaregs qui avaient fui le Mali dans les années 90, etc., et qui étaient installés en Libye. Avec la guerre en Libye, on a eu des casernes à ciel ouvert. Parce que il n'y avait plus, vous savez que Kadhafi n'avait pas vraiment un État au sens moderne, si vous voulez, du terme d'un État. Et donc, il y a eu un effondrement des institutions qui existaient. Il n'y avait pas une armée organisée. Et donc, ce qui était organisé s'est effondré. Et donc, les Touaregs sont rentrés en traversant pour se rendre au Mali, ils ont pris Niger, etc. Ils se sont rendus au Mali. Et bon, un certain groupe avait demandé l'indépendance. C'était le mouvement de la Zawad qui avait demandé ce mouvement. Bref, il y a eu, si vous voulez, l'implication de plusieurs groupes. Parce qu'il y avait déjà Al-Qaïda au Maghreb islamique qui était là, etc. Et puis, moi, j'avais enquêté sur ça, j'avais interviewé des gendarmes maliens, etc., qui étaient étonnés de la marche qui avait été faite par Ansar Dine ainsi qu'Al-Qaïda vers Bamako. Et bien sûr, il y a eu justement cette intervention française. Mais tout ça pour vous dire que la déstabilisation de la Libye a eu un effet boule de neige. C'est-à-dire le retour au Mali, puis il y a eu l'attaque contre l'Algérie, contre le
complexe gazier de voilà. En Amenas.
De En Amenas. Donc, Tigin Turin, donc ça a été vraiment, on a vu, si vous voulez, une multiplication de groupes extrémistes, si vous voulez, violents, qui se sont proliférés, qui ont fait des alliances avec Boko Haram ou avec même Shabab en Somalie par rapport à l'Afrique. Ça s'est étendu à partout. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Et puis, on a des réfugiés à cause, justement, de cette déstabilisation. Et puis, on demande, l'Europe demande aux pays du Maghreb, notamment d'Afrique du Nord, de leur dire, ah non, vous devez assurer la sécurité, de ne pas laisser les mouvements de population qui viennent du sud de l'Afrique subsaharienne vers l'Europe. Et bien sûr, beaucoup de ces populations restent, enfin de ces réfugiés économiques, politiques, ce que vous voulez, qui s'installent parce qu'ils ne peuvent pas aller vers l'Europe. Et qui restent dans ces pays-là, et donc ça cause encore plus de problèmes. ça cause des problèmes par rapport aux Touaregs, parce que vous savez, les Touaregs sont dispersés dans plusieurs des pays, notamment au Burkina Faso, en Niger, au Mali, en Algérie et autres. Et donc, la situation, enfin, ce qui s'est passé en Libye a été une catastrophe, non seulement pour la Libye, qui est vraiment catastrophique pour la Libye, un pays les plus riches.
Oui, oui. Hein,
et ça s'est étendu à tout le Sahel. Et bien sûr, l'armement était partout. Maintenant, je vous en rajoute, parce qu'aujourd'hui, on trouve non seulement l'armement qui avait surtout les manpads, etc., qu'on a retrouvé, qui se sont retrouvés un peu partout en Afrique. Aujourd'hui, on retrouve un peu des armes qui sont envoyées en Ukraine. Paraît-il, on les retrouve.
Et j'y viens. C'est la question suivante. Le fait que l'opération spéciale militaire russe, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, en Ukraine, a définitivement fait évoluer les alliances mondiales vers un monde plus multilatéral. Alors, qu'en pensez-vous d'abord? Et cette réorganisation de l'ordre géopolitique ne constitue-t-il pas le vrai centre de gravité du conflit en Ukraine actuellement et à Gaza? Et vous venez juste de le dire à l'instant qu'il y a beaucoup d'armes qui ont été données à l'Ukraine qui se retrouvent actuellement, y compris à Gaza. Donc si elles sont arrivées à Gaza, on peut imaginer qu'elles sont arrivées en Europe et qu'elles peuvent arriver en Afrique aussi. Alors, peut-on imaginer une aggravation du terrorisme, y compris en Europe?
C'est une grande possibilité. Je reprends à partir du début de la question concernant l'Ukraine. Moi, je rejette ces analyses qui commencent pour l'Ukraine le 24 février 2022.
Oui.
Et celle de Gaza le 7 octobre de cette année. Il faut toujours revenir à l'origine, à l'historique. Pour ce qui est de l'Ukraine, pour ceux d'entre nous qui étudions les relations internationales, le problème de l'Ukraine, on peut le situer à partir de la conférence de Munich de 2007, ou bien même, il faut commencer en 1990, quand Jim Baker a dit que l'OTAN n'avancerait pas vers l'Est d'un pouce. Et donc, aujourd'hui, on a rejeté ça, on a dit « Ah non, c'est pas vrai », etc. Alors qu'on a des documents qui montrent que, justement, il y a eu cette promesse. Et puis, en 2014, c'était un tournant avec le mouvement Maïdan ou le coup d'État, etc. Donc, on voulait affaiblir la Russie. Et ça, il ne fait aucun doute qu'on a voulu faire ça. Mais il faut être aveugle ou être complètement stupide pour croire que la Russie n'allait pas se défendre. Et c'est quand même une puissance nucléaire qui, pour son existence, pourrait justement se défendre jusqu'au bout. Donc, et là, il n'y a aucun doute que la Russie a gagné la guerre et on continue de pomper, de mettre des armes et des armes. On a tué, enfin, une tragédie humaine, puisqu'il y a eu, on parle de 400 000 à 500 000 soldats ukrainiens qui sont morts, et on peut en parler du nombre aussi russe. Et tout ça, évidemment, et vous avez raison, doit être mis dans ce contexte de mouvement, c'est-à-dire d'une hégémonie en déclin, celle des États-Unis et de l'Occident, et de l'émergence, pas uniquement de la Chine et de la Russie, mais vous avez des pays comme la Russie, comme le Brésil, etc. Donc, il y a ce questionnement par rapport à cette domination qui a duré depuis très longtemps, depuis maintenant des siècles, et surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale, cette imposition d'un monde unipolaire, depuis 1990-91, c'est un monde unipolaire, avec une domination, avec une oppression, avec une militarisation, si vous voulez, de du dollar, avec tout ce que vous voulez. Et là, on voit une résistance qui se passe à différents niveaux et on cherche justement un changement. Si au début, on ne parlait pas d'une transformation totale, aujourd'hui, on veut, les puissances qui émergent veulent justement avoir leur parole, une vraie démocratisation du système international, une application justement du droit, puisque on le voit même aujourd'hui, je reviens sur Gaza, où vous voyez, on incite pratiquement à un génocide et à une, on voit une violation du droit international et on se met du côté de celui qui a violé ce droit international, qui a toujours fait fi des résolutions des Nations Unies.
Oui. La question, justement, c'est la suite aussi de ma... Comment analysez-vous ce qui se passe actuellement, justement, dans ce cadre-là, au Proche-Orient, entre le Hamas et Israël, et la multiplication des conflits dans plusieurs régions du monde ne va-t-elle pas, in fine, aggraver le trafic d'armes et par conséquence, le terrorisme?
Je suis d'accord, ça va aggraver, parce qu'il va y avoir une circulation considérable de l'armement. Les armes maintenant sont très faciles obtenir un peu partout dans le monde. Elles circulent très rapidement et vous ne savez pas qui donne à qui. Mais je sais qu'il y a eu déjà des avertissements qui étaient venus même de Russie pour dire attention, vos armes que vous envoyez en Ukraine, elles se retrouvent ailleurs et elles sont beaucoup plus sophistiquées. Elles peuvent être utilisées, même contre des avions civils. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Le terrorisme, le terrorisme, encore une fois, maintenant, il faut le redéfinir parce que on peut parler de certains groupes comme étant véritablement des groupes terroristes qui ont terrorisé des populations. Je pense notamment à Daesh, par exemple, mais il ne faut pas non plus se tromper parce que en regardant la télévision, écouter les informations, lire la presse en Occident, à vouloir à tout prix mettre tous les Palestiniens comme étant pratiquement des terroristes ou les déshumaniser complètement. Et tout en omettant de faire référence à 75 ans d'occupation. Donc là, bien sûr, il va y avoir des... Je ne parle pas de terrorisme, je parle de mouvements ou de forces de résistance qui vont émerger un peu partout, là où il y a des volontés d'imposer les valeurs de notre pays, et sur les populations locales, de profiter des ressources naturelles de ces populations, parce qu'on le voit, même si on n'est pas d'accord, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les coups d'État, etc., mais quand les militaires disent « vous exploitez nos pays et qu'il n'y a pas de développement », c'est une vérité. Donc, il y a une prise de conscience que ce monde n'est plus le monde de la guerre froide. Ce n'est plus la même chose. Les gens ont meilleur accès à l'information. Ils voient, ils ont des choix. Et même si vous ne suivez pas les mainstream media, vous avez d'autres sources d'information. Tout se passe. C'est pour cela qu'Israël avait coupé l'Internet à Gaza, pour ne pas voir le massacre qui s'est passé. Donc, les gens ont compris, ont beaucoup compris, le monde a beaucoup changé. On ne sait pas vraiment où il va, mais ce qu'on sait, c'est qu'il ne sera plus ce qu'il a été jusqu'à présent.
D'accord. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Professeur Yahya Zoubir, je vous remercie pour toutes ces informations. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir, dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
C'est moi qui vous remercie.
C'était le professeur Yahya Zoubir, chercheur senior non résident au Middle East Council of International Affairs à Doha. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Ouadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.